Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à la culture au cœur de la crise du coronavirus. À l'ordre du jour ce soir, attendre ou bien se réinventer, la culture peut-elle se vivre au conditionnel? Vous l'avez entendu dans le journal, des manifestations se tenaient aujourd'hui dans toute la France pour protester contre le maintien de la fermeture des salles de spectacle, des cinémas et des musées, tandis qu'une autre protestation doit commencer d'ailleurs dans 10 minutes, devant le théâtre de l'Atelier à Paris par exemple. Par ailleurs, un ou plusieurs recours doivent être déposés dans les jours prochains contre cette décision gouvernementale et en parallèle, les professionnels de la culture imaginent chacun dans leur domaine, la manière de vivre et de survivre à cette crise en multipliant les innovations, en mixant par exemple le virtuel et le vivant. Ces dispositifs de crise sont-ils d'ailleurs le début d'une transformation durable, voire nécessaire de ce secteur ? Et le milieu culturel alerte également sur l'état de déprime de professions qui ne peuvent se contenter seulement d'être aidées financièrement sans savoir quand ce milieu pourra retrouver sa raison d'être, c'est-à-dire le public. Nous en parlons ce soir en compagnie de trois invités. Stanislas Nordet, bonsoir Stanislas Nordet.
Bonsoir.
Vous êtes metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg. On en parlera avec vous. Avec nous également Claire Lerestif, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du Centre d'art contemporain d'Ivry, le CREDAC. Et troisième invité de cette discussion, Elisha Karmitz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en studio avec nous, vous êtes directeur général du groupe MK2 Cinéma, donc cinéma, distribution de films. On en parlera également avec vous.
On a retardé la réouverture des salles de cinéma et des salles de théâtre. Mais la culture, elle continue. La création, elle continue. La culture va pas mourir, heureusement. Il y a des gens qui écrivent, qui lisent. On lit les derniers prix littéraires. On fait des captations de spectacles dans les théâtres subventionnés qui passent à la télévision. Il y a tout un monde culturel qui vit, qui bouillonne. Les artistes auront le droit. J'ai veillé à ce que les tournages puissent continuer, à ce qu'on puisse faire des captations, à ce qu'on puisse faire des répétitions. Le monde de la culture, il a une résilience. La création, même dans les pires moments, elle ne s'arrête pas, bien entendu.
Vous l'avez reconnu, il s'agissait de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, chez Jean-Jacques Bourdin, sur BFM Télé. C'était il y a quelques jours, juste avant le week-end. Elle s'est d'ailleurs exprimée également devant l'Assemblée nationale ce soir, en disant que les acteurs du spectacle culturel et du spectacle vivant ne sont pas en cause. C'est l'impact de la situation sanitaire qui l'est dans l'ensemble du pays et qu'elle rendait hommage aux acteurs de la culture pour leur sens de la responsabilité. Elisha Karmitz, qu'est-ce que vous pensez justement de cet éloge des acteurs de la culture dont vous faites partie avec le groupe MK2?
Écoutez, si pour réagir à ces propos, je pense que personne ne s'est jamais réuni pour lire les livres, donc à part dans les rencontres littéraires, donc je dois dire que j'y ai pas appris grand-chose. On a fait preuve de beaucoup de résilience depuis maintenant de nombreux mois. Il faut se rappeler que pour les acteurs de la culture, c'est aujourd'hui 4 mois de fermeture et 5 mois d'ouverture sous contrainte. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est que de la réouverture que nous avions prévue pour le 15, donc pour aujourd'hui, n'était pas une réouverture totale, mais était également une réouverture sous contrainte. Donc on parlait d'une réouverture avec couvre-feu, avec jauge limitée et avec l'application de l'ensemble des normes sanitaires. Donc on n'était déjà pas dans une réouverture pleine, mais dans une réouverture qui, à mon sens, pouvait respecter la situation sanitaire aujourd'hui. Le gouvernement en a décidé différemment.
Oui, et de votre côté, Stanislas Nordet, vous qui dirigez le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, avec également l'école de comédiens qui l'accompagne, qu'est-ce que vous pensez de ces discussions qui, à la fois, rendent hommage au milieu de la culture, mais qui disent, de toute façon, ça ne pourra pas se passer tout de suite?
Moi, je pense que la ministre a dit beaucoup de choses justes, mais qu'elle ne dit pas tout. C'est-à-dire que je pense que, on a un vrai interlocuteur. Mais effectivement, en tout cas, sur la question de la présence, finalement, du public, du spectacle qu'on appelle vivant, de se regarder un film à plusieurs, regarder un spectacle à plusieurs, le fait de la présence des gens du vivant, là, il y a un manque. Bien sûr qu'on peut rester seul chez soi, mais finalement, face à ça, je dirais tout ce qui se passe, c'est ça la vraie question, c'est être seul ou être ensemble. Être seul, c'est à un moment donné terriblement pesant, même si on a la possibilité de faire un certain nombre de choses. Moi, je pense que le grand problème de ce moment-là, c'est plus la question de l'équité, de l'égalité avec les autres secteurs de la société. Moi, je sais que ce qui m'a le plus frappé, c'est que les lieux de culte réouvrent avant les lieux de culture. Pour moi, c'est un signe assez parlant de quelque chose qui n'a pas été entendu, compris, regardé, ou je sais pas quoi. Moi, je trouve qu'elle bosse bien, mais que la question qui se pose, c'est est-ce que notre société, est-ce que le Premier ministre, est-ce que le Président ont ce même attachement aux artistes? Est-ce qu'ils voient exactement où on en est? Est-ce qu'ils voient le besoin des publics? Et qu'est-ce que ça raconte de notre société, finalement, un lieu qui voit réouvrir les magasins et les églises, mosquées et synagogues avant les lieux de culture?
Oui, Roselyne Bachelot disait aussi devant l'Assemblée nationale tout à l'heure que la culture était au cœur du projet politique français. Vous y croyez, vous, de votre côté, Claire Le Restif, qui dirigeait le Centre d'art contemporain d'Ivry, le CREDAC?
Alors, concernant les centres d'art contemporain en France, dans l'écosystème des arts visuels, en fait, ce sont les lieux de production pour les artistes et de proximité pour les publics. Et en l'occurrence, nous sommes considérés comme petits musées. Et donc, lors du premier confinement, nous avions eu la possibilité de réouvrir. Et je pense, comme mes deux amis ce soir, que nous avons fait preuve de responsabilité. Nous avons mis en place les gestes barrières. Nous avons pu accueillir à nouveau les publics. Et donc, nous avons été tout à fait surpris que nous puissions ouvrir, étant donné que nous sommes des lieux où on ne se rassemble pas tout à fait, même si parfois nous le faisons, mais ce sont des lieux où plutôt les publics ont l'habitude d'avoir un rapport, je dirais, privilégié avec les œuvres et de proximité. Donc, on a été très, très surpris de ne pas pouvoir réouvrir.
Est-ce que vous avez été assez combatif, Claire Le Restif, parce que je voyais Samuel Churin de la coordination des intermittents et précaires qui disait « Arrêtons d'être défensifs, c'était dans l'humanité, optons pour l'offensive », à propos d'un référent liberté qui devait arriver devant la justice et donc demander la réouverture des lieux de culture, en l'occurrence. Est-ce que vous avez été assez combatif? Est-ce que vous avez fait trop confiance, justement, à cette parole de l'État?
Oui, je pense qu'on a on a été combatif, mais sans doute jamais assez. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas avoir été tout à fait entendu, de ne pas être perçu, en fait. C'est-à-dire que les centres d'art sont pris dans une sorte de nasse où on n'a pas été perçu comme des lieux de tout à fait de proximité et justement de rassemblement, je dirais, conséquent. Donc on a sans doute pas été assez offensif, mais peut-être doit-on l'être davantage dans les semaines qui viennent.
Oui, Elisha Karmitz, on peut dire effectivement que le secteur de la culture est particulier en France, qu'il a un rapport très étroit avec les ministères qui l'encadrent, avec les centres nationaux comme le Centre national du cinéma. Vous connaissez bien cela en tant que directeur général du groupe MK2. Est-ce qu'il n'y a pas justement dans ce rapprochement, cette proximité avec les tutelles, par exemple, l'idée que d'autres se sont levés, les évêques sont allés protester contre la fermeture des lieux de culte, et puis ça a porté ses fruits, plus ou moins.
Je pense qu'une partie de l'incompréhension vient de là. C'est vrai que ces dernières semaines, on a l'impression que ceux qui se faisaient le plus entendre et ceux qui se faisaient entendre en dernier arrivaient à obtenir plus.
Mais sauf les restaurateurs.
Mais pour les restaurateurs, on va dire que la règle a été exprimée tôt et a été très claire avec une réouverture au 20 janvier. Donc je crois que dans la culture, on a été très appliqué justement à suivre les demandes du gouvernement. La première, il faut s'en rappeler, ça a été dans le secteur du cinéma, une réouverture très rapide au mois de juin, alors qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des problèmes sur les films, sur l'approvisionnement en films, qu'on a mis beaucoup de temps à recomposer le niveau d'entrée et le public, qu'ensuite on a été soumis au couvre-feu, qu'on a su aussi s'adapter à ce couvre-feu pour ensuite s'adapter au confinement, pour ensuite avoir la perspective de cette réouverture qu'on a vu couper à 5 jours de sa mise en place.
Et c'est peut-être cela qui était le plus surprenant, c'est que vous étiez confiant, vous y croyez, vous, à la réouverture le 15 décembre, tel que le président de la République l'avait plus ou moins annoncé?
Alors il y a deux éléments, c'est que d'un côté, on n'avait aucune information de la part du gouvernement qui nous laissait réellement penser qu'on n'allait pas ouvrir, et on a appris ces informations dans les médias en même temps que l'ensemble des citoyens.
Donc c'est ce que disait notre collègue Jean Labadie du Pacte dans un article récemment. Il disait c'est la deuxième fois qu'on nous pousse à y aller, mais j'ai pas eu un coup de fil pour donc me disant faut faire gaffe.
Il a raison. Et pour des acteurs comme le Pacte ou comme tous les distributeurs indépendants, c'est dramatique. On les a poussés à sortir des films en salle. Certains ont eu des moments d'exposition d'uniquement deux jours, ont été obligés de refermer. Là, ensuite, on les a poussés à recommuniquer pour reproposer les films en salle à partir du 15. Et c'est des gros investissements et ça crée évidemment des situations dramatiques.
Ce qui est tout à fait particulier, c'est que effectivement, on parle du milieu de la culture comme d'un milieu uni, pourrait-on dire, Stanislas Nordet, mais c'est un milieu qui est divisé parce que simplement, il n'y a pas simplement des institutions publiques, il y a aussi des institutions privées, et Lisha Karmitz les représente à ce micro, et il y a des théâtres privés comme il y a des théâtres publics, et le sort n'est pas le même pour les uns et pour les autres. Stanislas Nordet, vous dirigez un théâtre public, le Théâtre National de Strasbourg, ça n'est pas la même chose pour tous les autres.
Oui, sauf que justement dans cette situation, je trouve que ce qui est très bien, c'est qu'on est plutôt très très unis et très solidaires les uns des autres, parce que finalement, on est tous face à une même question, une même réalité. Certains sont plus fragiles que d'autres. Moi, par exemple, je réalise à quel point tous les lieux privés subissent beaucoup plus fortement que nous, qui sommes assurés de ne pas disparaître. Hein. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à défendre les artistes, les intermittents du spectacle, les techniciens, etc. Mais on sait qu'en tant que TNS, on sera là, mais je pense qu'il y a une vraie conscience qu'on est tous dans le même bateau, qu'on défend tous, et c'est peut-être une des forces de ce qu'on traverse, qu'on est tous nécessaires. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, en ce moment, je me dis, les gens, ils ont pas juste besoin d'aller au théâtre public, ils ont besoin d'aller voir du stand-up dans le privé, ils ont besoin d'aller au stade, etc. C'est-à-dire que je pense qu'à cet endroit-là, il y a une espèce de, dans les dialogues qu'on a entre nous aussi, de prise de conscience qu'on est tous dans un même moment, qu'il faut le traverser, qu'il faut serrer les coudes pour le traverser, peut-être pas de la même manière, les réponses sont peut-être pas les mêmes, mais je pense qu'il y a une solidarité très, très nécessaire face à ça. Parce que la culture, pour ne pas la laisser enfermer dans son espèce d'accusation d'être pour certains, pour peu, d'être élitiste, etc. C'est important aussi qu'on raconte que non, on est tous nécessaires. C'est-à-dire, un soir, quelqu'un va voir un concert de Céline Dion et le lendemain, il va voir un spectacle de Claude Régis. C'est possible. Et le soir suivant, il va au cinéma et après, il va à Ivry ou ailleurs voir.
Ouais, c'est tout le travail de.
Qui se tient.
Ouais, c'est tout le travail, effectivement, de Bernard Lahire sur la culture des individus qui expliquait combien, effectivement, il y avait une culture légitime qu'on exposé à l'extérieur de soi-même, dans les cercles que l'on fréquentait, une culture supposément illégitime qu'on ne voulait pas revendiquer, mais les deux faisant partie des mêmes personnages. Quand on vous dit de vous réinventer, ça vous dit quoi, justement, Stanislas Nordet ? Est-ce que vous pensez que vous vous réinventez chaque jour, que c'est le travail du milieu de la culture que de se réinventer ? Ou est-ce que vous pensez que là, eh bien, il faudra se réinventer bien plus que ce qu'on a fait jusqu'alors ?
Se réinventer pour des artistes, pour des gens qui travaillent avec des artistes, c'est la raison d'être, hein. Sinon, on disparaît, on se désintègre immédiatement. Donc, on passe notre temps à réinventer, à nous réinventer, parce que sinon, on meurt. Donc, d'une certaine manière, face à tout ce qui nous arrive, dès le début, on a tous, même, je pourrais dire, peut-être le mot joie est presque excessif, mais ça ne nous a pas fait peur de nous confronter à la difficulté, à des montagnes à escalader, à des processus et des procédures à retrouver. On a inventé tous et toutes des tas de choses qui partaient dans tous les sens, qui auraient pu partir encore plus loin, qui ont donné d'ailleurs des très belles choses qu'il faudra garder ensuite. Je pense
quoi,
que ça
par a exemple
aussi certaines choses. Pour nous, par exemple, au TNS, on s'est engouffré cet été dans le fameux été culturel et apprenant. On a fait une opération qui s'appelait la traversée de l'été. Donc, on a pu investir ce qu'on ne fait pas d'habitude parce qu'on ferme l'été entièrement la ville et les quartiers de Strasbourg l'été. Et on a touché beaucoup plus fortement que d'habitude, on le fait aussi d'habitude, des publics qui ne connaissaient pas le TNS. On a fait une espèce de gigantesque tournée dans les EHPAD avec les élèves de l'école, et il y a des choses qui du coup sont restées, qu'on va garder dans nos processus de tous les jours. Donc il y a des choses comme ça qui vont perdurer. De toute façon, dans toutes les crises, il y a des choses intéressantes qu'il faut garder et prendre. Mais se réinventer, je dirais, on sait le faire si, et là je rejoins ce que disait Elisha, on a le temps de ça. C'est-à-dire que là, effectivement, je pense que la grande incompréhension qu'il y a eu, c'est d'avoir été prévenu à la dernière minute, et surtout cette date aberrante du 7 janvier qui ne correspond à rien et que personne n'a compris, et donc qui a créé un manque de confiance, il me semble, alors que finalement on pouvait se dire que pour le moment il y avait quelque chose qui... On travaillait pas si mal que ça, on va dire, avec les autorités publiques dans cette crise.
Il faut bien le dire, effectivement, beaucoup des milieux de la culture pensent déjà à la date du 20 janvier et peut-être au-delà, en l'occurrence, plutôt que celle du 7 janvier. Claire Le Restif, justement, sur cette question de la réinvention qu'on enjoint les milieux de la culture à mettre en œuvre, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez déjà sur un territoire à Ivry, en banlieue parisienne, qui connaissez parfaitement, effectivement, ce territoire et qui faites un travail de couture fine avec ce territoire, justement, qu'est-ce que vous pensez que a pu vous apprendre la crise et qu'est-ce que vous pourrez en tirer justement pour continuer à sortir, non pas à l'identique, comme le disait par exemple Emmanuel de Marcimota du Théâtre de la Ville, il dit que 2020 c'est un pli dans l'histoire des milieux culturels, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Alors je pense qu'en effet, en tout cas pour les centres d'art qui sont sans doute les plus petites structures de cet écosystème et qui sont sans doute aussi les plus fragiles, mais peut-être aussi les plus souples, se réinventer, c'est au quotidien et c'est un peu le cœur de notre métier. En effet, ce passage nous a ébranlés, mais nous a fait aussi réfléchir en équipe à des nouveaux formats et être au plus près et à côté des artistes, avec les artistes, parce qu'il faut aussi savoir que les plasticiens ne sont pas des intermittents et que les plasticiens doivent trouver une économie qui leur est propre. Donc on a été aussi beaucoup aux côtés des artistes et moi je devais, quant à moi, projeter une exposition avec un artiste et j'ai changé complètement mon programme pour en inviter 49, c'est-à-dire pour être en dialogue multiplié avec autant d'artistes qui ont partagé des dialogues à distance avec les publics, mais on a continué aussi notre action de terrain dans la mesure où on nous le permettait avec notre public local, c'est-à-dire aussi les lycées, le centre médical puis psychopédagogique d'Ivry. Et tout ce maillage local qui est extrêmement fort, puisque Ivry est une ville de culture, comme vous le savez. Voilà, donc se réinventer, bien sûr, on va garder des expériences qui ont été très riches, mais je dirais que ce qui nous manque là cruellement, c'est vraiment le partage, la discussion, l'échange dans les lieux, la construction d'un point de vue critique et l'apprentissage de la connaissance et des émotions, qui ne se font, à mon sens, que face aux œuvres et dans la fréquentation des œuvres.
Et cela, pour vous aussi, Elisha Karmitz, qui aviez un grand programme qui s'appelait l'Institut MK2, d'ailleurs, dont France Culture était partenaire, qui avait aussi un autre programme qui s'appelait MK2 Curiosity, dont vous allez peut-être nous parler. Vous étiez en phase d'invention ou de réinvention de l'idée que la salle de cinéma pouvait être autre chose qu'une salle de cinéma. Et puis, en fait, ça s'arrête juste au moment où vous avez commencé cette expérience.
Oui, pour abonder dans le sens de ce qu'a dit Stanislas, dans la culture, c'est notre nature de nous réinventer en permanence. Et surtout de composer avec des contraintes créatives. C'est ça que nous faisons au quotidien. Pendant le premier confinement, très rapidement, et aussi dans l'élan général où tout le monde a eu envie de s'adapter, on a bâti une plateforme qui s'appelle MK2 Curiosity, qu'on a relancée après un travail de développement un petit peu plus abouti, là il y a eu 3 semaines.
Donc c'est une plateforme sur laquelle on voit des films que vous avez en catalogue, d'une certaine façon, que vous présentez, mais très peu nombreux, contrairement aux grandes plateformes américaines, par exemple.
Tout à fait, on prend en effet le contre-pied des offres qu'on peut trouver sur les grandes plateformes françaises ou américaines qui vont surtout chercher du volume d'offres. Nous, c'est une plateforme où on propose 5 films gratuits chaque semaine, disponibles pendant 7 jours. C'est un petit peu comme la livraison d'un panier bio, mais où on va plutôt toucher le cerveau que l'estomac. Et c'est une manière de s'adapter, c'est une manière de continuer à faire vivre la cinéphilie, mais c'est simplement un élément qui est complémentaire. On ne cherche pas à remplacer la fréquentation de nos salles de cinéma par une fréquentation à domicile, et on considère que la culture, et notamment le cinéma, se vit en salle.
Et c'est ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, cette crise du coronavirus se double de la crise, évidemment, de la culture numérique, dont vous êtes non pas les victimes, mais des acteurs aussi, d'une certaine façon, à MK2 et les Chakarmites, ce qui est une crise assez complexe, avec les grandes plateformes qui ont vu la fréquentation de leur site exploser pendant le premier confinement, et encore pendant le second.
Et je pense que dans le secteur audiovisuel, c'est en effet un élément dont on peut s'inquiéter, c'est qu'en même temps, à un moment où les acteurs, on va dire, dont nous faisons partie, qu'on peut considérer comme traditionnels de la vie culturelle, sont affaiblis, les acteurs numériques se sont considérablement renforcés. Donc je ne conteste pas le fait qu'ils se renforcent. Mais par contre, l'écart qui se crée entre nous devient de plus important. Et cet écart, en effet, est inquiétant parce qu'il y a quand même un enjeu qui n'est pas l'enjeu simplement des semaines à venir, mais l'enjeu des années à venir, l'enjeu de la conquête des publics, des nouveaux publics, des habitudes qui se créent et aussi des besoins d'investissement pour relever les challenges qu'on a en
votre
face de nous.
Votre chiffre d'affaires a baissé de combien pendant le temps de cette année ?
Cette année, notre chiffre d'affaires va baisser d'au moins 70%, ce qui est quand même extrêmement conséquent.
Vous écoutez Le Temps du Débat.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche.
Le cinéma de Claude Nougaro dans cette discussion que nous menons autour de la façon de se réinventer ou d'arrêter momentanément les métiers de la culture. Dans vos nuits blanches, Stanislas Nordet, quels sont les cauchemars que vous avez ces temps-ci justement sur la rénovation de ce milieu de la culture, sur sa possibilité de s'en sortir différemment, de réinventer? Je citais tout à l'heure Emmanuel de Marcimota qui disait que la crise était révélatrice et accélératrice des carences du système. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux pas être complètement d'accord, parce que je trouve que ce système, c'est un beau système. On a quand même quelque chose qui est magnifique, qui est sans doute imparfait. Dans cette crise, les plus touchés sont les plus précaires, une fois de plus. Hein, les auteurs, les autrices, les jeunes gens qui sortent des écoles, qui sont dans les écoles.
Dans le milieu du tourisme et de la culture, les guides conférenciers qu'on ne calcule voilà. Plus, etc., etc., effectivement.
Absolument. Moi, c'est un système que je trouve beau, ce système français. Et d'ailleurs, cette fameuse exception culturelle française, on dit souvent c'est partout pareil en ce moment en Europe, les cinémas et théâtres sont fermés. Bah justement, on est en France, c'est l'exception culturelle française, donc on peut peut-être inventer autre chose différemment. À ce titre-là, non, moi je trouve qu'on est, je sais pas quoi, il y a eu des choses magnifiques. Elisha le sait sur le cinéma. Enfin, je veux dire tous les grands auteurs cinéastes européens qui viennent tourner leurs films en France, être produits en France, c'est bien parce qu'on a construit un certain nombre de choses, le prix du livre, etc., etc., etc. Donc moi je pense pas qu'il faille tant que ça tirer des leçons qui vont changer le système, notamment sur le numérique, par exemple au TNS. C'est vrai qu'on a pris le parti pris de pas diffuser de captation, mais de faire d'autres choses.
Ouais, vous faites pas comme l'Opéra de Paris qui a lancé son opéra chez vous, par exemple, avec des soirées streaming qui sont payantes, etc., etc.
Alors, c'est notre choix à nous, hein, mais c'est un choix aussi. Les autres choix sont respectables, mais je pense que la question de la présence, d'être là, d'être au milieu des autres, elle est primordiale et que c'est pour ça que les gens vont au théâtre, c'est pour ça que les gens vont au cinéma. C'est parce que justement, ils sortent de chez eux et ils croisent d'autres gens.
Oui, mais quand la question de la présence est impossible pour des raisons sanitaires, c'est compliqué.
Mais elle va redevenir possible.
Elle va redevenir possible.
Ouais. Je pense qu'il faut aussi être dans cette projection-là.
De votre côté, Claire Le Restif, justement, vos cauchemars, ils sont de quel côté, justement, pour un centre d'art contemporain comme celui d'Ivry, le Crédac?
Oh, les cauchemars, ils sont du côté de la fragilité des structures, hein, centre d'art dont je parlais tout à l'heure. Ils sont vraiment de ce côté-là, et puis aux côtés des artistes plasticiens, bien évidemment, mais aussi des équipes qui attendent impatiemment que le public revienne pour partager cette expérience de l'œuvre.
Mais on leur dit aux artistes plasticiens, on leur dit la même chose que, disons, aux gens de théâtre. Eh bien, il y a le numérique, vous pouvez exister numériquement, etc.
Oui. Mais c'est quoi la culture numérique? C'est encore pour moi un peu indéfini, c'est-à-dire que ça ne remplace pas. En fait, il faut pas opposer l'un à l'autre. Hein. Je pense que ça ne remplace pas, bien entendu, l'expérience de l'œuvre. Ça peut être tout à fait complémentaire. On l'a vu, hein, pendant toute cette crise. Mais pour moi, on a aussi au Crédac, pour cette expo La vie des tables, on a établi un certain nombre de règles pour ne pas se substituer à l'exposition, essayer d'en avoir une approche à distance. Mais pour moi, je crois vraiment que si on doit réinventer des formats, c'est avec les artistes. Et donc pour ça, il nous faut des moyens tout de même, parce que les artistes ont des idées sur cette question. Mais je pense qu'il ne faut pas singer. Je ne suis pas du tout spectatrice des viewing rooms, par exemple, que proposent les galeries, où je vois comme ça singer un lieu. En fait, en termes d'expérience de l'art, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pousser un petit peu plus loin que singer simplement l'impossibilité d'être dans les lieux. Moi, je pense aussi beaucoup aux écoles d'art. Donc, dans mes cauchemars, en fait, je pense beaucoup aux étudiants qui ont vraiment voulu et ont besoin d'être dans les ateliers des écoles. Je pense aux collègues, en fait, hein, qui ont vraiment fait en sorte que les lieux d'art, enfin les écoles d'art restent ouvertes. Ça, c'est absolument fondamental. Je pense à toute cette jeune création. Donc, dans mes cauchemars, je pense beaucoup à ça, et je pense beaucoup à ce qu'on a établi avec les publics, qu'on ne peut pas continuer à faire, c'est-à-dire en proximité avec les publics, des publics qui sont éloignés en général de l'art et qui n'ont cette expérience que dans nos lieux de proximité. Donc je pense aussi beaucoup à eux, parce que moi, de mon côté, je peux attendre, je peux être patiente, j'ai ce bagage, mais la relation, en fait, doit pouvoir assez rapidement se remettre à l'œuvre. Mmh. Voilà mes cauchemars, en fait.
Elisha Karmitz, pourquoi ne pas passer à la désobéissance? Certains disent, allons-y, c'est ce que disait Samuel Churin de la coordination des intermittents et des précaires. Est-ce que il y aurait un geste à faire qui serait de dire, ben voilà, on est MK2, on ouvre, comme voudrait le faire, par exemple, c'est en tout cas ainsi que ça a été annoncé la métropole de Lyon, en disant, on va ouvrir, on va pas attendre un avis de la justice, on va le faire.
Je pense pas que ce soit la solution, parce qu'on est quand même dans une situation sanitaire qui est grave, et que le but n'est pas d'avoir justement un discours misérabiliste sur la culture en expliquant l'ensemble de nos problèmes. Mais je pense qu'il y a...
Mais un discours de combat, on pourrait...
Un discours de combat, totalement. Et je pense qu'il y a une vraie colère de la part de l'ensemble du secteur et aussi des citoyens. Et que cette colère, en tout cas pour nous qui y travaillons, elle vient aussi de la manière dont le gouvernement s'exprime vers nous. Et il faut se rappeler quand même de certaines formules. Le président Macron nous a rappelé, nous a demandé d'enfourcher le tigre. Aujourd'hui, Jean Castex nous dit que il y a une exception culturelle, mais qu'il n'y a pas d'exception sanitaire. Je pense que toutes ces formules-là sont de la communication, qu'elles sont extrêmement malvenues dans cette période, et que plutôt que d'avoir une désinformation claire sur quand est-ce qu'on peut ouvrir, quand est-ce qu'on peut fermer, pourquoi les lieux de culte sont ouverts et pas les lieux de culture, est-ce que c'est un choix politique ou est-ce que c'est un choix sanitaire, et que le gouvernement assume si c'est des choix politiques et le disent en tant que tel. Je pense que la colère vient de là, la colère vient de l'incompréhension et du manque de cohérence.
Et d'autant que vous êtes lâché par des partenaires, enfin lâché d'une certaine façon, pas simplement par l'État, mais les distributeurs. Alors Warner, je ne sais pas si vous avez beaucoup de films Warner qui doivent passer chez vous, chez MK2, mais Warner dit bon, on va sortir nos films, de nos 17 films de 2021, on va les sortir à la fois sur plateforme, sur HBO Max qui leur appartient, et dans nos salles. Eh bien, la directrice générale, la PDG de Warner, Anne Sarnoff, dit il faut faire preuve de créativité. Donc cette idée que la salle soit la destination d'un film, par exemple, ça n'est plus aussi évident pour Warner.
Alors je pense que sur le sujet de Warner qui a été extrêmement médiatisé, parce que c'est en effet une annonce qui est extrêmement importante, il faut aussi remettre quelques éléments en perspective. D'abord Warner...
Ils appartiennent à AT&T.
Voilà, Warner fait partie d'un conglomérat, appartient à AT&T. AT&T est un câble opérateur américain, a des problématiques financières.
Et 150 millions de dollars de déficit.
Ils font des arbitrages. Et aujourd'hui, ils ont fait un arbitrage pour en effet privilégier une plateforme de streaming qui est HBO Max, dans un contexte aux États-Unis sanitaire qui est aussi extrêmement compliqué.
Mais ça pourrait donner des idées à d'autres.
Et ça a déjà donné des idées à d'autres. Universal avait déjà commencé à avoir des accords unilatéraux avec certaines salles de cinéma pour raccourcir la chronologie des médias. En France, d'abord, on a la chance d'être protégé par notre système. Je pense qu'il ne faut pas qu'on anticipe sur des problèmes que nous n'avons pas encore, parce qu'on en a déjà aussi suffisamment en ce moment. Mais c'est un facteur de risque pour l'avenir et il faut en tenir compte.
Stasie Saint-Sordet, cette idée de la désobéissance, vous y croyez, vous y pensez, ça pourrait faire partie des moyens d'action dans un secteur de la culture qui est en difficulté?
Alors moi, j'ai déjà souvent désobéi.
Oui, oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
D'occasion. Après, je suis d'accord avec Elisha, c'est-à-dire là, la chose qui est un tout petit peu plus délicate, c'est cette situation sanitaire qui est réelle. Ceci dit, on se bat. Hein. Ce qu'il faut entendre, c'est qu'on se bat, mais à plusieurs endroits. Hein. On se bat, ok, on manifeste, ok, il y a les référés. Ok, dans la coulisse, on se bat pour faire bouger les choses et on va y arriver, j'espère. Hein. C'est-à-dire, il faut aussi se dire que face à ça, et dès le début, on est loin d'être passif, qu'on n'a pas arrêté de se battre pour obtenir des choses, qu'on perd certains arbitrages, on en gagne d'autres.
Mais quand vous parlez comme un ministre, c'est ce que dit un ministre, on perd certains arbitrages, c'est ce que dit d'ailleurs la ministre elle-même.
Non, je parle comme quelqu'un qui sait que parfois il faut aller dans la rue, que parfois il faut désobéir civilement et que parfois il faut dialoguer et qu'il faut mêler les trois pour que les choses marchent finalement. Donc cette question-là, en tout cas moi, tous les gens que je rencontre aujourd'hui à différents niveaux, que ce soit des directeurs, des jeunes gens, tout ça, tout le monde est très mobilisé et personne ne veut laisser passer ce qui est en train de se faire là. Donc je pense qu'il faut rester optimiste sur le fait qu'il y a des choses à obtenir et qu'on va s'en sortir. Excusez-moi d'être un peu optimiste, mais,
non, mais
quand on se bat, on obtient des trucs, quoi. Et il y a différentes manières en ce moment, je dirais, de se battre à différents niveaux. Et moi, je soutiens tous les moyens de combat, mais il n'y en a pas qu'un seul.
De votre côté, Claire Le Restif, justement.
Alors moi, je suis plutôt, je serai dans la négociation. En fait, ce que j'aimerais davantage plutôt que la désobéissance, hein, je suis plutôt dans la négociation et le désir de négocier avec nos tutelles. C'est-à-dire que de pouvoir se faire entendre, et ce secteur, en tout cas le nôtre, a du mal à se faire entendre, à se faire comprendre, et j'espère en fait, hein, dans les semaines qui viennent, de pouvoir mieux faire comprendre ce secteur. Après, je trouve aussi que dans l'opposition, on entend guère de discours sur la culture, c'est-à-dire que c'est le gouvernement, mais c'est aussi dans l'opposition. C'est comme si quelque chose avait disparu de ce point de vue-là, comme si c'était un sujet trop brûlant ou un sujet trop compliqué. On n'entend pas non plus de discours.
Vous dire qu'on laisse le gouvernement se débrouiller avec la crise sanitaire et la crise culturelle qui va avec, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs de l'opposition qui...
Et il m'a pas semblé entendre d'acteurs de l'opposition prendre fait et cause pour la culture et de tenter de pouvoir discerner un peu les mesures qui nous sont imposées aujourd'hui. Voilà, c'est aussi tout ce discours-là qui est absent. On a besoin aussi d'être... Alors bien sûr, moi je veux être positive et je veux être optimiste et bien entendu, on va réussir avec les artistes et les publics à traverser ce moment-là, mais on a aussi besoin à un moment d'être reconnu et d'être entendu. Et là, je trouve que de ce côté-là, on n'entend pas grand-chose, en tout cas.
Ilisha Karmis, vous imaginez un retour à quoi quand on sortira de cette crise, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, quand, au bout du compte, le vaccin aura peut-être fait son effet, qu'il y aura donc une possibilité à nouveau de sortir sans crainte et sans risque. Qu'est-ce que vous imaginez, vous? Est-ce que c'est un redémarrage progressif, comme vous l'espériez déjà pour le 15 aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que vous imaginez pour les cinémas?
Moi, je suis très optimiste sur le désir des gens de revenir à leurs activités, à leurs sorties culturelles.
Vous ne croyez pas du tout à l'idée que, alors qu'on avait des flambées incroyables de présence de Français dans les salles l'année dernière en 2019, que ça va chuter considérablement en 2021, par exemple. Vous ne croyez pas?
Je pense pas. Je pense que d'abord les lieux de culture sont des lieux très sûrs, où les protocoles sont extrêmement bien respectés, où les problèmes.
Oui, mais ça on le dit. Mais fortes. Pendant l'été, par exemple, les gens ne sont pas beaucoup venus non plus au cinéma.
Non, mais c'était un problème d'offre. C'est que justement, on a besoin d'avoir une communication qui soit claire, parce que, en tout cas, dans le cinéma, mais c'est le cas de beaucoup de secteurs culturels, on est dépendant de l'offre que nous proposons et on ne crée pas cette offre dans un claquement de doigts. C'est des économies et des industries qui sont entièrement interdépendantes, où un seul acteur ne peut pas subvenir à l'ensemble de ses besoins seuls, et on a besoin pour ça d'anticipation, on a besoin pour ça d'avoir de préparation, d'une communication claire, et c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir des mesures qui soient le plus limpide possible pour savoir que il y a une date en effet où on pourra reprendre et qu'on s'y prépare sereinement. Et c'est aussi pour ça, et c'est ce que je voulais ajouter, je pense que aujourd'hui les Français comprendraient pas qu'il y a une désobéissance civile de la part de la culture, et ça je pense qu'ils le prendraient très mal, et que certainement, ça crée une fracture dans la société entre les acteurs culturels et les citoyens. Évidemment que les acteurs culturels sont solidaires des soignants et sont aussi subissent et sont aussi partie prenante des problématiques sanitaires. Mais simplement, on demande quand même un peu de respect, un peu de considération et une compréhension de nos métiers.
Stanislas Nordet, qu'est-ce qu'il vous disait tout à l'heure? Il nous en restera quelque chose. On a compris effectivement que, par exemple, ce que vous avez fait cet été avec des publics très différents de ceux que vous fréquentiez d'habitude au Théâtre National de Strasbourg, eh bien, vous vouliez vous en servir avec les élèves. Mais ces élèves de l'école du Théâtre National de Strasbourg, ils se posent quelles questions justement sur le choix qu'ils ont fait de devenir des comédiens et des comédiennes?
Alors, ils ne le remettent pas du tout en question, simplement ils sont terriblement à la fois inquiets et précarisés, comme l'ensemble des étudiants, hein, mais ça je ne vais pas faire une lapalissade, enfoncer des portes ouvertes, et ça c'est une vraie question, hein, parce que aujourd'hui les jeunes gens qui sortent des écoles d'art, les jeunes gens qui sont dans les écoles d'art et pas simplement de théâtre, comme celle du Théâtre National de Strasbourg, sont à la fois extrêmement fragilisés, bien sûr psychologiquement, parce que l'avenir leur semble un peu plus que plein de brouillard, ils sont très fragilisés financièrement.
Oui, hein, ça c'est sûr.
C'est du réel. Et là, il faut absolument qu'il y ait des mesures fortes prises. Moi, je les réclame depuis un moment sur les étudiants qui sont dans les écoles d'art, sur les étudiants qui sont sortants des écoles d'art et qui donc n'ont pas pu rentrer dans la vie professionnelle. Ça, c'est extrêmement important. Signal d'alerte. En même temps, ils travaillent tous les jours, ils répètent au TNS, ils sont magnifiques sur les plateaux en répétition, ils ont la niaque, ils ont l'envie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de morceau de vie incroyable dans nos lieux, et les publics, pour répondre aussi à ce que disait tout à l'heure Elisha, nous les publics, quand on a dit qu'on réouvrait le 15 décembre, on a rempli les salles en 3 jours, c'est-à-dire qu'il y a une envie démente, même j'aurais envie de dire, de réinvestir. Investir les lieux. Donc, la vie, le foisonnement est là, il faut mettre la flamme pour que tout s'enflamme et que ça reparte.
Il faut l'organiser aussi, c'est cela aussi, j'imagine, et avoir, effectivement, comme le disait tout à l'heure, un plan de charge un peu précis, Elisha Karmitz, et puis je donnerai ensuite la parole à Claire Le Récif.
Oui, pour compléter ce que je vous disais, quand on a ce qui nous a manqué en termes d'entrée pendant toute la période estivale, c'est la part que représentent les films américains dans l'exploitation française.
Là, c'était beaucoup quand même. Hein.
C'est important, bien sûr, mais il y a aussi...
Ça fait 60% de la fréquentation, les films américains, quelque chose comme ça.
C'est une part très importante, mais ça a aussi laissé de la place pour des films français, et on a vu qu'il y a des films français qui ont aussi rencontré leur public, qui ont été des vrais succès pendant cette période, et puis au moment où nous nous sommes arrêtés, donc au moment de la période des vacances de la Toussaint, les fréquentations étaient excellentes, et on retrouvait des niveaux de fréquentation qui étaient tout à fait satisfaisants, avec une offre où on n'avait pas spécialement beaucoup plus de films américains. Donc il faut être très, très confiant dans le public et dans son désir de venir, de fréquenter la culture et de venir au cinéma, bien sûr.
On a parlé de conditionnel pendant toute cette émission avec vous, Claire Le Récif, aussi, ainsi qu'avec Elisha Karmitz et avec Stanislas Nordet. Les conditions de la reprise, pour vous, c'est quoi?
Alors, pour nous, en fait, ça a été assez formidable.
Au Crédac, à Ivry.
Oui, ça a été assez formidable en juin et en septembre de voir à quel point, en fait, on a fidélisé le public. C'est-à-dire que quand on a pu réouvrir, on a eu une affluence qu'on n'avait jamais connue. Donc, il y a un vrai appétit de culture. Il faut soutenir à tout prix les artistes aujourd'hui pour qu'on puisse passer ce moment. Mais en tout cas, ça a été vraiment une reconquête ou un retour du public formidable.
Donc vous n'êtes pas aussi pessimiste que cela?
Si pessimiste? Non, parce que ça, c'était le bon signe, en fait. C'est-à-dire que sur ce maillage territorial, eh bien, la fidélité du public de proximité nous a totalement encouragés. Donc d'où aussi notre déception de ne pas pouvoir le retrouver aussi vite dans des petites structures où, encore une fois, j'insiste, hein, c'est tout à fait gérable. Il n'y a aucune raison, là où les galeries commerciales ont pu réouvrir leurs portes, que des centres d'art de notre taille ne puissent pas le faire. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Donc il faut absolument qu'on puisse réouvrir le plus vite possible.
Elisha Karmitz, un dernier mot. On sait comment fonctionne le financement du cinéma en France, en particulier grâce aux billets d'entrée qui permettent au CNC de réinvestir. C'est dans l'année prochaine et les années suivantes que ça va être terrible, très brièvement.
Oui, je pense qu'il y a une inquiétude par rapport aux années prochaines, et je pense que pour parler en tout cas du métier que je connais le mieux, qui est celui de l'exploitation, ce qu'on sait, c'est que pour avoir les niveaux d'entrée que nous avons en France, ça nécessite aussi de la part des exploitants des investissements qui sont extrêmement importants et qui eux sont des investissements privés, qui ne sont pas des investissements qui sont portés par le CNC. Et oui, il va falloir qu'on ait la capacité de continuer à investir dans nos salles pour continuer à donner envie au public d'y venir. Ouais.
Merci beaucoup à tous les trois, merci Stanislas Nandet, merci Claire Orestif et merci à vous Elisha Karmitz. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Imane Gilles, Fanny Richer, Rémi Baille et Hugo Boursier. Clément Daté était avec nous aujourd'hui à la technique et Félix Levaché à la réalisation.